France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus qui fait sa rentrée ce vendredi matin avec une philosophie dans le jukebox pour comprendre ce qui fait un tube. Et j'ai le bonheur de recevoir ce matin un philosophe, il est musicologue, professeur dans la très prestigieuse université de Brown aux États-Unis et il publie un livre passionnant aux éditions de Minuit, le titre Tube, c'est aux éditions de Minuit, c'est passionnant. Bonjour Peter Zendi et bienvenue.
Bonjour Ali.
Comme tous les vendredis, et puisqu'on va démarrer l'année 2025, on va commencer avec une expérience de pensée. Là, pour le coup, c'est une expérience universelle. Ce qu'on écoute, c'est justement l'un des tubes qu'on croise dans votre livre, Kylie Minogue, qui chante « Can't get you out of my head ». Traduction ?
Je peux pas te ou vous sortir de ma tête.
Alors, certains d'entre nous vont l'avoir pendant des heures dans la tête, peut-être même des jours. Certains seront heureux, d'autres nous maudiront. Mais comment l'expliquer ? C'est la grande question que vous posez dans votre livre « Can't get you out of my head ».
Alors, c'est ce qu'on appelle un ver d'oreille dans un certain...
Un ver d'oreille.
Oui, dans un certain...
Comme un ver de terre.
Comme un ver de terre, comme un virus, si vous voulez. Un virus qui colonise, qui prend possession de la mémoire, de la psyché, et qui se répète, qui envahit toutes les pensées, qui en fait empêche même de penser quand on en souffre. Hein. Tout le monde n'en souffre pas, mais en fait quand même, je pense qu'on fait tous et toutes cette expérience d'avoir quelque chose dans la tête qui nous empêche de réfléchir, qui vraiment nous hante. Voilà. Il y a un psychanalyste d'ailleurs qui a décrit, c'était un disciple de Freud, Theodor Reich, il a décrit ses mélodies obsédantes, comme on dit en français, en utilisant l'expression anglaise « haunting melodies », qui est une très belle expression, c'est
des mélodies hantées ou qui hantent.
Des mélodies fantômes, si vous voulez, qui reviennent, des mélodies revenantes, moi je traduirais volontiers.
Il y a certains tubes qui deviennent des obsessions, et même ce que vous appelez des obsessions mondialisées. On en a eu un exemple avec Kylie Minogue, des chansons qu'on a tous eues en tête un jour. Imagine, John Lennon, Parole, par exemple, de Dalida. Pourquoi certaines chansons s'y prêtent plus que d'autres ? C'est une énigme et un mystère, mais que vous abordez frontalement, Peter Zendi.
Alors, effectivement, ça m'a passionné, cette question, et je crois qu'on se la pose. Moi, j'ai pas une solution, hein. J'ai pas une réponse miracle, c'est-à-dire, je pense pas qu'il y ait un truc, une sorte de recette, surtout pour les gens qui voudraient faire des tubes, pour expliquer comment faire. Voilà, non, ça, c'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette tension incroyable qu'il y a entre la banalité totale de certaines de ces chansons, pas toutes.
La banalité.
Ben, il y en a quand même qui répètent les mêmes accords, les mêmes trucs mélodiques, mais aussi les mêmes histoires. C'est toujours une histoire d'amour. Voilà. D'ailleurs, une des premières, le tube qui porte ce titre, là d'où vient le mot, c'est de Boris Vian. Il a écrit les paroles pour une chanson qui s'appelle Le Tube, je crois, c'est 1957.
Salvador.
Voilà. Et le tube, ça raconte dans l'argot de l'époque ce que Boris Vian appelle l'histoire d'une môme et d'un gars, leur histoire d'amour. Donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes trucs. C'est des recettes, c'est des ficelles. Ça suffit évidemment pas à expliquer le succès du tube, mais ça veut dire qu'au fond, le tube, c'est quelque chose de très banal, de très commun. Et en même temps, c'est quelque chose qui va pêcher en chacun de nous une espèce de mémoire singulière. Ça a la capacité, au fond, comme un hameçon mélodique, de tirer sur un souvenir qui nous travaille, quoi, et de le faire sortir.
Vous invitez à penser les tubes, alors que vous disiez justement que quand on a un tube en tête, ça interdit de penser. Au fond, vous refusez la définition qu'on pourrait donner facilement d'un tube, à savoir que c'est une chanson qui cartonne en streaming, dans les ventes, dans les charts, comme on dit aux États-Unis. Mais en fait, ça ne peut pas être résumé à un succès. Pourquoi ?
Alors, je voulais en fait préserver une possibilité, qui est une possibilité fragile, mais que je crois très importante, qui m'a été donnée à penser par Rodolphe Burger, qui est un magnifique chanteur, fondateur, il y a longtemps maintenant, du groupe Catonoma, enfin, et il a fait beaucoup de choses depuis. Et donc, un jour, dans une conversation, il me disait, mais nous, ce qu'on a fait avec Catonoma, qui était son premier groupe de rock, c'est de faire des tubes clandestins. Alors, j'ai trouvé cette idée magnifique.
Clandestin, c'est contradictoire, non ?
Exactement, c'est complètement contradictoire. Et en même temps, clandestin, ça disait quelque chose, pour moi, de la force du tube qui peut être une espèce d'hymne. Vous savez, il y a des hymnes clandestins, des hymnes de la résistance. Alors, c'est une idée qui résonne aussi pour moi avec une phrase magnifique qu'on trouve dans Proust, dans La recherche du temps perdu, où il y a deux personnages qui écoutent un petit motif mélodique, et le narrateur dit que cet hymne, c'est l'hymne intime de leur amour.
L'hymne intime.
Exactement, l'hymne intime de leur amour. Ce qui est aussi contradictoire, parce qu'un hymne, on penserait que c'est public, c'est justement pas du tout intime. Et alors, en même temps, je crois que ça dit quelque chose vraiment de la nature même du tube, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui a la force de l'hymne, la force entraînante, on a l'impression que ça va faire communauté, ça nous entraîne vraiment dans une sorte d'appartenance, et en même temps, cette appartenance, elle est une sorte d'appartenance à soi, à ce qu'il y a de plus intime en nous.
Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que malgré tout, vous essayez de penser le succès commercial du tube et vous pensez les tubes avec Marx, qu'on est surpris de rencontrer dans votre livre. Qu'est-ce que le théoricien du capital ou de la lutte des classes peut avoir à nous dire sur les tubes ? On connaît le fétichisme de la marchandise chez Marx, mais il y a aussi un fétichisme du tube.
Oui, effectivement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, vous savez, il y a un passage très très fameux dans le Capital de Marx, où Marx donne la parole aux marchandises. C'est ce qu'on appelle, d'un terme savant, en rhétorique, c'est une prosopopée. Ça veut dire on prend un objet inanimé et l'objet inanimé se met à parler, il se met à dire « je ». Voilà. Et donc là, c'est la marchandise qui parle, les marchandises qui parlent, et qui disent « nous les marchandises », etc. Alors, moi, ce que je trouvais frappant, c'est qu'il y a beaucoup de tubes, je dis pas que c'est une règle absolue, mais il y a quand même beaucoup de tubes qui font à peu près la même chose, c'est-à-dire sous couvert de raconter une histoire d'amour, une histoire banale comme ça, de rencontre, au fond, ils parlent d'eux-mêmes. Et alors, l'exemple qu'on a entendu en début d'émission,
Kylie Minogue,
« I can't get you out of my head », je peux pas te sortir de ma tête. Évidemment, ça parle d'une rencontre amoureuse, je peux pas, cette obsession sentimentale, disons, et en même temps, ça décrit exactement ce que le tube lui-même fait. C'est comme si le tube lui-même disait « je peux pas me sortir de ta tête ».
Alors, il y a de très nombreux tubes, vous passez par « Isn't she lovely » de Stevie Wonder, il y a des qualités qui semblent incompatibles, c'est-à-dire que le tube parle à chacun d'entre nous, et d'un autre côté, il peut être universel, mais écoutez ça.
Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer.
Je suis venu te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg. Vous vouliez l'écouter, Peter Zandi, pourquoi ?
Je pense que c'est un tube qui, encore une fois, comme on le disait, parle de lui-même, sous couvert de parler d'autre chose. Évidemment, il se présente comme une histoire d'amour, l'histoire d'une rupture, un amour qui tourne mal. Je suis venu te dire que je m'en vais, je te quitte. Et en même temps, un peu comme ce qu'on disait sur le fétichisme de la marchandise chez Marx, au fond, ce tube, parce que c'est un tube, oui, il parle de lui-même en disant ce que font les tubes. Les tubes, quand ils nous reviennent en mémoire, sous la douche, le matin, quand on n'y pense pas, en marchant, etc., ils viennent nous dire quelque chose. Après, on peut réfléchir sur qu'est-ce qu'ils nous disent. Souvent, c'est une pensée inconsciente qu'on n'a pas forcément envie de s'avouer, ou un vieux souvenir qui ressurgit quand on s'y attendait pas. Donc, le tube vient nous dire quelque chose, et en même temps, il s'en va, c'est-à-dire qu'il se retire. Parce que souvent, ce qu'il vient nous dire, on ne sait pas ce que c'est. On a une mélodie obsédante dans la tête, on ne sait pas pourquoi, on ne se souvient peut-être pas des paroles même. Donc, il vient nous dire quelque chose, mais en se retirant. Donc,
et venir en étant parfois quasiment comme un indice au sens policier du terme. Vous citez le chef-d'œuvre de Fritz Lang, le film M, le maudit, qui est sorti il y a longtemps maintenant, quasiment un siècle, et vous faites un lien étonnant, le lien entre le tube et le crime. Pourquoi ? Quelle relation entre l'histoire des tubes et la criminologie ?
Mais là, je suis un peu les traces d'un fantastique psychanalyste qui était un disciple de Freud, Theodor Reich, dont je parlais tout à l'heure, et qui est le seul, enfin pas le seul peut-être, mais l'un des rares psychanalystes qui s'est penché sur la question de la musique, sur sa force. Et notamment, il a parlé de ses mélodies obsédantes, mais il a aussi écrit, Theodor Reich, des choses sur la criminologie, oui. Sur cette compulsion qui pousse le criminel à revenir sur ses traces, et en fait sur cette idée que les indices, les preuves, c'est en fait des morceaux du criminel, comme si le criminel avait laissé des espèces de bouts de lui-même qui sont autant de traces. Alors, surtout, ce que Theodor Reich nous permet de penser, je crois, c'est cette force d'aveu. Alors, il l'étudie dans le cadre de la criminologie, mais d'une certaine manière, le tube, quand il nous revient en mémoire, quand il vient nous dire quelque chose, tout en se retirant, c'est quelque chose qui nous vient de l'inconscient, c'est une sorte d'aveu qu'on essaye de se faire à soi-même, par exemple, un souvenir d'enfance, d'adolescence, un amour, etc. Et puis, ça se retire, ça ne s'avoue pas en s'avouant.
On va donner la parole et l'antenne dans un instant à celle qui a inventé une émission mythique, Tube & Co, Rebecca Manzoni sur France Inter. Mais ce qui est très frappant dans votre livre sur les tubes, c'est que vous dites que l'écoute est une activité. On a le sentiment pourtant que c'est plutôt passif, que la présence, elle est une réception. On est en train d'attendre et on subit.
Alors, Si on prend le cas des tubes, puisqu'on parlait de ça, mais en même temps, on pourrait aussi généraliser ces considérations sur l'écoute. Il y a deux manières d'écouter, en gros. On peut penser que ce qui nous arrive par les oreilles, c'est un message, ce sont des sentiments, des émotions, et qu'on les reçoit passivement, c'est-à-dire qu'on en est submergé, ou on est complètement dans la compréhension de ce qui nous arrive. Et en même temps, on peut aussi penser que écouter, c'est quelque chose qui réfléchit sur soi, c'est-à-dire comment j'écoute, en fait. Et dès que je commence à réfléchir sur comment j'écoute, la question arrive, est-ce que je fais quelque chose en écoutant ? Moi, je pense qu'on fait quelque chose en écoutant.
C'est d'ailleurs ce qui est passionnant, et l'obsession mélodique de cette boucle qui revient et revient. Vous dites que c'est là que se loge l'unique, le paradoxe. Merci infiniment, Peter Zandi, d'avoir été l'invité du 15 minutes de plus. Tube, au pluriel, la philosophie dans le jukebox, c'est aux éditions de Minuit. Bon séjour en France.